Et je vous propose de continuer sur un extrait de la lettre de notre pape François, la joie de l'Évangile, au numéro 23e, où il dit la chose suivante. L'intimité de l'Église avec Jésus est une intimité itinérante et la communion se présente essentiellement comme communion missionnaire. Fidèle au modèle du Maître, il est vital qu'aujourd'hui l'Église sorte pour annoncer l'Évangile à tous, en tout lieu, en toutes occasions, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. La joie de l'Évangile est pour tout le peuple, personne ne peut en être exclu. C'est ainsi que l'ange annonce au pasteur de Bethléem, soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. L'Apocalypse parle d'une bonne nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation, langue, race et peuple. Ce que je retire de ce passage, bon, le fait que ce soit à annoncer à tous, bon, ça c'est, nous le savons, et de fait, bon, dans la famille, c'est quelque chose qui est à pratiquer. Mais en même temps, c'est intéressant de se poser la question, de dire, juste un point, c'est, premièrement, l'intimité itinérante, les premières phrases. Hein, l'intimité de l'Église avec Jésus est une intimité itinérante, et la communion se présente essentiellement comme communion missionnaire. Au fond, la manière pour que il y ait une annonce de l'Évangile, on l'a dit un petit peu ce matin, c'est quelque part, ben voilà, lâcher prise, ne pas s'installer, cette intimité itinérante, c'est-à-dire qui bouge, etc. Mais là, le pape a introduit une autre notion, c'est la question de la communion missionnaire. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait de l'amour dans la famille, eh bien, ça évangélise, tout simplement. Le fait que l'amour circule, le fait qu'il y ait des temps de paix, pourquoi pas des temps de silence, des temps de prière, des temps où on se redit les uns aux autres que l'on s'aime, parce que bien souvent dans les familles, on a du mal à se dire entre nous que nous nous aimons, hein, et donc du coup, on le suppose, mais la communion, elle est missionnaire. Ça veut dire que chaque fois qu'on établit, justement, et posez-vous la question, qu'est-ce que vous mettez en place dans vos familles respectives pour que cette communion advienne, pour que cet amour dans la famille advienne? Parce que, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, aimer n'est pas spontané. Et donc, du coup, ça demande aussi de mettre en place des aspects dans notre vie, de temps de relecture, de temps de... Moi, par exemple, je sais pas, vous en ai parlé l'une ou l'autre fois, mais j'invite beaucoup là, les familles à prendre des temps de relecture en famille. Qu'est-ce que chacun a vécu dans l'année, par exemple à la fin d'une année civile, au moment de Noël, qui est quand même une période particulière, privilégiée, qui est... Voilà, qu'est-ce que chacun a vécu? Qu'est-ce que chacun a... Vous voyez, en quoi il a grandi dans l'amour? J'ai, ne pas hésiter à aller profond dans les relations, même si c'est... Ben oui, tu nous embêtes avec... Mais mine de rien, c'est ça c'est très éducateur. C'est très formateur. Ce qu'on appelle la relecture, qui est... très cher à notre pape François, comme jésuite qu'il est, comme vous imaginez, les temps de relecture, ben, de prendre des temps en famille, de prendre du temps pour la communion en famille, sans courir de droite, de gauche, et peut-être les vacances qui approchent pourraient éventuellement, en tout cas dans le meilleur des cas, être un temps pour célébrer, pour déguster la communion quelque part, de prendre des temps entre nous, de pas surcharger l'agenda, de prendre des temps de gratuité avec les enfants, de prendre des temps de... vous voyez, justement, une chose qu'on n'a pas le temps de faire à l'habitude parce que ça va dans tous les sens. Eh bien, par exemple, les vacances, ça peut être un temps parfaitement bon pour la communion. Et cette communion-là, et mine de rien, c'est pédagogique. Je veux dire, ça distille l'Évangile. Oui, ça. Petit à petit, c'est pas dit. On va pas dire, bon, même s'il n'est pas interdit de faire commencer par un temps de prière, on peut commencer, mais on va pas parler de Jésus tout le temps. Mais mine de rien, le fait de dire, pour nous, la communion dans la famille, c'est aussi important que le carnet de notes, et de le dire à haute et intelligible voix, ben, mine de rien, ça annonce l'Évangile. Mais dans combien de familles c'est dit? Dans combien de familles c'est dit? On valorise beaucoup le carnet de notes, ça oui, mais la capacité d'aimer, la capacité d'entrer en relation, est-ce que c'est valorisé autant, si ce n'est plus? Parce que c'est beaucoup plus important. Parce que c'est dans la famille qu'on apprend à rentrer en relation les uns avec les autres. Voilà, donc moi j'ai bien aimé ce passage de communion missionnaire, sachant qu'il peut y avoir des... Justement, ça inclut le pardon aussi, ça inclut beaucoup de choses, mais ça, de rendre grâce pour ce qui va aussi entre nous, pour tout ce qui a été source d'action de grâce pendant l'année, tout ce qui a... Vous voyez, donc, ça annonce l'Évangile. Le Saint-Père en parle comme ça, de dire... Vous voyez, moi, je crois beaucoup à ces choses qui... Il y a l'annonce explicite, c'est beaucoup au catéchisme, il y a la prière, il y a la messe, etc. Mais il y a plein d'autres choses qui annoncent l'Évangile. Distillent, comme dit saint Paul, la bonne odeur du Christ. Et des gens, et ensuite, ils feront mémoire de ça. Sur le coup, ils valoriseront peut-être pas. Mais ensuite, en allant dans d'autres familles, en voyant la pratique de d'autres familles et que chez vous ça a été important et chez les autres pas, ben là ils vont commencer à valoriser. Parce que vous avez mis en place justement des lieux de communion. Et de communion qui, l'amour de fait, sans parler de Jésus toutes les lignes, mais l'amour de fait annonce Dieu, parce que Dieu est amour. De même aussi les demandes de pardon en famille. Nous, en communauté, on se demande pardon, parce qu'on est, au cas où vous ne l'ayez pas remarqué, nous sommes de nature humaine, et donc, et non pas angélique. Et donc, du coup, quand vous me direz, les anges, il y a les deux catégories, mais ensuite, on se blesse, on pète les plombs, on fait comme tout le monde, quoi. Mais, on veut vivre l'Évangile. Et on en a fait vœu, on en a fait profession, c'est notre job. Donc, du coup, on demande pardon. Voilà. Mais rien que ça, vous voyez, un truc comme ça, des demandes de pardon. Il y en a qui n'ont jamais appris dans leur famille. Pourtant, ils vont peut-être tous les dimanches à la messe, mais ils n'ont jamais appris les demandes de pardon. C'est la communion missionnaire. Et c'est bien aussi de se dire dans la propre famille, personne ne s'exclut de cette communion missionnaire. Bon, ça, je pense que ça se tombe un peu sous le sens quand il s'agit de la famille proche, parents-enfants. On ne va pas exclure un enfant de l'Évangile volontairement. Bon, ce serait vraiment incompréhensible. Au numéro 24, donc, l'Église en sortie est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l'initiative, qui s'implique, qui accompagne, qui fructifie, qui fête. Primerear, prendre l'initiative. Veuillez m'excuser pour ce néologisme. La communauté évangélisatrice, la famille évangélisatrice, expérimente que le Seigneur a pris l'initiative. Il l'a précédée dans l'amour. Et en raison de cela, elle sait aller de l'avant. Elle sait prendre l'initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin, arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus. Pour avoir expérimenté la miséricorde du Père et sa force de diffusion, elle vit un désir inépuisable d'offrir la miséricorde. Osons un peu plus prendre l'initiative, En conséquence, l'Église s'est impliquée, Jésus a lavé les pieds de ses disciples, le Seigneur s'implique et implique les siens en se mettant à genoux devant les autres pour les laver, mais tout de suite après, il dit à ses disciples, « Heureux êtes-vous si vous le faites ?» La communauté évangélisatrice, la famille évangélisatrice, vous remplacez à chaque fois, par ses œuvres et par ses gestes, se met dans la vie quotidienne des autres, elle raccourcit les distances, elle abaisse jusqu'à l'humiliation si c'est nécessaire, elle assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. Alors bon, là, c'est pas directement, vous l'avez compris, destiné aux familles, mais vous pouvez faire vous-même la relecture et la transposition. La communauté des disciples, la famille, prend l'initiative, s'implique, accompagne, fructifie et fête. Donc, ce que je vous disais, qu'est-ce que vous prenez comme initiative ? Il y a des choses, vous avez à être comme parents, voire grands-parents, à être proposants. Encore une fois, vous pouvez proposer, et plus ça va, vous serez pas imposé. Hein, la foi, on ne l'impose pas, on ne la suppose pas, on la propose. Il ne faut pas supposer la foi. Ah ben, il a bien été dans l'école catholique, etc. Il a la foi. Non, il y en a qui sont sortis indemnes de l'école catholique. Donc, il ne faut pas la supposer. Mais il ne faut pas, évidemment, l'imposer. On la propose. Donc, qu'est-ce que vous avez comme initiative dans vos familles respectives? Vous avez, comme vous avez dans d'autres aspects de formation, pour les loisirs, pour l'aspect culturel, relationnel, vous avez des initiatives, vous avez des propositions que vous faites à vos enfants ou que vous avez fait. Et donc du coup, qu'est-ce que vous faites comme proposition? Est-ce que vous êtes proposant? Proposante, premièrement. Et puis ensuite, une autre chose qui est intéressante, c'est la question de expérimenter la miséricorde du Père, c'est-à-dire que sa force de diffusion, hein, c'est d'offrir la miséricorde. C'est important de sentir que dans une famille, il y a une miséricorde, qu'on a le droit à l'erreur, qu'on a le droit de se tromper, qu'on a le droit de pas être toujours au top. Toujours, parce que là-bas, il y a un perfectionnisme familial qui est pratiquement frise l'idolâtrie, et donc du coup, il faut vraiment être tac-tac. Ça, c'est l'idolâtrie, ça. C'est pas le christianisme. Et donc, où est-ce que vous en êtes dans vos familles, l'accueil de la fragilité, de l'erreur, de la pauvreté aussi de vos enfants, peut-être même de l'incapacité de certains de vos enfants à suivre à certains niveaux. C'est ce qui vient le plus fréquemment, c'est le niveau scolaire, mais il n'y a pas que ça. Mais le niveau scolaire dit beaucoup de choses. Mais même entre eux, est-ce que ils ont le droit d'être faibles entre eux? Ou est-ce que c'est la compétition à celui qui sera plus fort? Mais si vous ne dites pas, nous, il faut que ce soit dit, il ne faut pas le supposer. Dans notre famille, la miséricorde est un curseur très important, et vous le dites de façon claire, ben je vous assure que ça va dépoter. Parce que du coup, personne ne le dit. Pourtant, c'est l'évidence, c'est la foi chrétienne. La miséricorde est pour nous quelque chose d'important. Entre vous. De même, nous, comme parents, eh bien, on se demande pardon aussi. Et de même, vous, comme parents, vous pouvez demander pardon aussi. Voilà, on n'est pas des superman, des superwoman. On est juste humain. Mais Jésus nous a rejoints dans ce juste humain. C'est ça la bonne nouvelle. Et ça évangélise. Vous voyez, j'étais dans une famille, voilà. Ils pourront dire, on se pardonnait. Mais ça c'est une famille chrétienne. Où l'évangile est une vraie bonne nouvelle. Elle s'abaisse jusqu'à l'humiliation si c'est nécessaire et assume la vie humaine touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple, c'est-à-dire les personnes plus pauvres. Ça aussi, c'est évangélisateur. Quelle est la part dans ma vie de l'accueil de personnes en situation de fragilité? Parce que c'est sacrément pédagogique. Je pense à une association, par exemple, à bras ouverts, qui propose d'accueillir dans des familles des enfants handicapés pour soulager peut-être d'autres familles pour qui c'est dur tous les jours. Mais vous accueillez pendant un week-end, mais c'est évangélisateur. Il n'y a pas besoin de parler. Tout est dit. Alors, il faut voir un peu les personnes, c'est sûr que des personnes en grande marginalité, etc., c'est peut-être plus compliqué. Hein? Mais de faire signe à une personne dont on sait, ou une famille dont on sait qui est dans la difficulté pour X raisons, c'est évangélisateur. Personnes malades, personnes qui sont sans emploi, personnes étrangères, personnes dans des situations de grande détresse. Ben voilà, eh bien, nous croyons. En la parole de Jésus, ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Et vous le dites aux enfants. Le faire et le dire. Le dire et le faire. Nous croyons ça. Ben, je vous assure, ça ne laisse pas indifférent. Les évangélisateurs ont ainsi l'odeur des brebis. Et celles-ci écoutent leur voix. Ensuite, la communauté évangélisatrice se dispose à accompagner. Elle accompagne l'humanité dans tous ses processus, aussi durs et prolongés qu'ils puissent être. Elle connaît les longues attentes et la patience apostolique. L'évangélisation a beaucoup de patience et elle évite de ne pas tenir compte des limites. Fidèle au don du Seigneur, elle sait aussi fructifier. La communauté ou la famille évangélisatrice est toujours attentive aux fruits. Parce que le Seigneur la veut féconde. Il prend soin du grain et ne perd pas la paix à cause de l'ivraie. Non, ça c'est très beau ça. Combien parfois dans nos familles, justement, on a ce regard plus négatif hein, de voir le verre à moitié vide et non pas à moitié plein, de voir tout ce qui va pas, voilà, il y a des tas de choses dans ma famille, ça va pas, ceci ça va pas, ceci ça va pas, etc. Et du coup, on se désespère. Justement, qu'est-ce que nous dit la communauté évangélisatrice? Elle ne se laisse pas décourager par l'ivraie. Oui, il y a des choses certainement dans notre famille qui ne vont pas. Ça peut arriver. Comme dans ma communauté, il y a des choses qui ne vont pas. Ça arrive. Comme en moi, personnellement, il y a des choses qui ne vont pas. C'est vrai. Mais je ne perds pas la paix. Je ne perds pas la paix. On remet dans le Seigneur les choses qui ne vont pas. On en demande pardon à l'occasion. Et puis, s'il y a des choses qu'on ne peut pas remédier, parce que pour X raisons, ben on les confie, on les dépose dans le Seigneur. Tout simplement. Mais vous voyez, la manière dont on vit en famille les choses qui ne vont pas. Et que plus les enfants grandissent, plus ils les voient, forcément. C'est tant mieux. Bon, ben, ce que tu as vu, c'est juste. Comment toi, tu le vis? Ah, moi, ça m'angoisse, papa. Bon. Parfois, ça peut être une difficulté de relation entre deux enfants, par exemple. Ça peut être une difficulté au niveau des adultes, à la suite, je ne sais pas quoi, d'un héritage avec les oncles et tantes, etc. Et du coup, ils voient bien qu'il y en a qui veulent plus parler. Bon, tout ça arrive. Ce que tu vois, c'est juste. Toi, tu le vis comment? Ça m'angoisse. Comme chrétien, nous vivons comme ça. On le remet. Ça nous angoisse peut-être, ça nous attriste toujours, mais on le remet. Prenez des mots simples. Jésus, il prend des mots simples. Et faites-vous confiance, vous, comme mère de famille ou femme, épouse ou grand-mère, que sais-je, ben faites-vous confiance que le Seigneur vous donnera les mots pour dire les choses, pour parler à vos enfants. Bon, là, on est dans la transmission. Donc, il vous donnera les mots. Portez-le dans la prière, déposez-le, demandez les mots, et puis les mots viennent. Jésus dit, ceux qui seront persécutés n'ont pas besoin de se préoccuper de leur défense. L'Esprit Saint viendra. Bon là, on n'est pas dans le cadre de persécution, grâce à Dieu, mais l'Esprit Saint vient quand même pour éclairer nos cœurs et trouver les mots qui vont toucher le cœur de l'enfant ou du jeune, qui vont l'interroger, qui vont le soutenir, l'encourager, le remuer à l'occasion. La communauté, la famille évangélisatrice est toujours attentive aux fruits. Ça, c'est beau, moi, je trouve que c'est une belle... C'est vraiment très bien ce que nous dit notre Saint-Père. Là aussi, lui, il est simple. Moi, j'aimais beaucoup Benoît XVI, qui est aussi plus intellectuel. Lui, il est plus concret. Jean-Paul II était plus compliqué, mais lui, le pape François, il est simple. Je veux dire, tout le monde peut comprendre, me semble-t-il. En tout cas, c'est pas compliqué à comprendre. Donc du coup, c'est compliqué à pratiquer, ça oui, ça c'est le principe de l'évangile. C'est facile à comprendre, difficile à mettre en pratique. Mais bon, ça c'est pour tout le monde pareil. Qu'on soit pape ou débutant dans la foi, ça c'est difficile pour tout le monde. Mais bon, mais à comprendre, non, mais voilà. Du coup, vous évangélisez en soulignant les fruits. Peut-être dans ce temps de relecture, en regardant... qui a été. Mais si on le dit jamais, vous voyez la difficulté souvent dans nos familles, comme il n'y a pas de temps pour ça, du coup on ne le dit pas. Ou on le dit entre la poire et le fromage, comme ça, on ne célèbre pas, on ne fête pas ça. Et que le fruit que porte l'un n'entraîne pas la jalousie pour l'autre. Parce que aussi la jalousie, ça existe dans la fratrie. Que ce que le fruit que je porte, eh bien soit aussi une joie pour l'autre. Et le fruit que porte l'autre, c'est une joie pour moi. Et on n'est pas là pour se comparer. On est là pour porter du fruit. Et un fruit qui demeure, pour être fécond, pour avoir une vie féconde. Il prend soin du grain, ne perd pas la paix à cause de l'ivraie. Le semeur, quand il voit point de l'ivraie parmi les grains, n'a pas de réaction plaintive ni alarmiste. Hein, combien, parfois, on s'angoisse dès qu'on voit, je sais pas quoi, tel aspect de tel enfant, tel comportement, telle note, tel machin. Parfois des questions de santé, là, qui pour le coup sont parfois aussi même angoissantes, mais c'est souvent plus l'angoisse des parents que des enfants eux-mêmes. Hein. Donc, voilà, il y a une anxiété, il y a une angoisse. Dès qu'on voit, on perçoit un peu la réaction plaintive, ni alarmiste, attention à ça. Il trouve le moyen pour faire en sorte que la parole s'incarne dans une situation concrète et donne des fruits de vie nouvelle, bien qu'apparemment ceci soit imparfait et inachevé. Forcément, ce sera imparfait, inachevé, forcément. Mais ce qui est humain est imparfait et inachevé. Il y a ce qui est divin qui est parfait et achevé. Oui, le problème du perfectionnisme, c'est qu'on n'accepte pas l'imparfait et l'inachevé. En tout cas, on ne le reconnaît pas, on ne le valorise pas. Oui, parce que bon, c'est imparfait, mais par rapport à ce que tu étais avant, c'est quand même un mieux. Alors, il y a de la marge de progression, ok. Mais on ne valorise pas, parce que ce n'est pas à la hauteur que nous on pense. Vous voyez, le fait d'accueillir l'imparfait, l'inachevé, non pas comme une complaisance avec la paresse ou etc., mais juste parce que c'est humain. Hein, c'est dans le rituel d'ordination sacerdotale. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à des ordinations sacerdotales. Eh bien, l'évêque dit à la fin du rituel spécifique d'ordination. Que Dieu achève en vous ce qu'il a déjà commencé. Il y a des choses qui ne sont achevées qu'au ciel, que dans le face-à-face avec le Seigneur. Mais sur cette terre, ça restera imparfait et inachevé. Mais c'est pas pour ça que ça porte pas du fruit. J'aime bien cette parole-là, tiens. Le disciple sait offrir sa vie entière et la jouer jusqu'au martyr, la donner jusqu'au martyr comme témoignage de Jésus-Christ. Son rêve n'est pas d'avoir beaucoup d'ennemis, mais plutôt que la parole soit accueillie et manifeste sa puissance libératrice et rénovatrice. Enfin, La communauté, la famille évangélisatrice, joyeuse, c'est toujours fêté. Pour ça, les enfants, c'est super. Les enfants, ils aiment beaucoup faire la fête. Il y a un côté festif chez l'enfant, il y a un peu une... Voilà, on va faire la fête, etc. On fête pas assez. Nous, dans nos communautés, par exemple, c'est clair, on ne fête absolument pas assez. Parce qu'on peut une communauté d'hommes, etc. Bon, moyenne d'âge 54 ans. On se saoule à faire la fête encore. Non, parce que la fête, c'est sortir de soi-même. La fête, c'est sortir de soi-même. Et l'enfant, je trouve... Et il y a des gens qui ont des charismes de fête. La fête, elle n'a pas la manière du monde à faire n'importe quoi. On est bien d'accord. Mais la fête, selon le cœur de Dieu, l'évangile, c'est se réjouir du don qu'est l'autre, d'organiser des jeux, d'organiser ceci, voilà. Fêter... Alors, fêter les fêtes liturgiques, mais fêter les anniversaires, fêter les de savoir fêter. C'est un charisme, ça. C'est un don qu'il faut demander au Saint-Esprit. Et par la fête, par le jeu, hein, il y a beaucoup de choses qui passent. Hein, Don Bosco, quand il a commencé les patronages en Italie, qu'est-ce qu'il a marqué au frontispice des patronages ? Ici on joue, ici on prie. Et ça reste la devise de tout patronage chrétien. Elle célèbre et fête chaque petite victoire, chaque pas en avant dans l'évangélisation, dans la communion. L'évangélisation joyeuse se fait beauté dans la liturgie, dans l'exigence quotidienne de faire progresser le bien. L'Église évangélise et s'évangélise elle-même par la beauté de la liturgie, laquelle est aussi la célébration de l'activité évangélisatrice et source d'une impulsion renouvelée à se donner. Voilà. Ça va plus loin que la famille, évidemment. Voilà. Maintenant, il y a un autre texte, une autre partie de texte qu'on peut prendre pour terminer notre méditation, de personne à personne. J'aime bien ce passage-là aussi sur l'évangélisation. Maintenant que l'Église veut vivre un profond renouveau missionnaire, vous avez la feuille, c'est bon, hein ? De personne à personne. Maintenant que l'Église veut vivre un profond renouveau missionnaire, il y a une forme de prédication qui nous revient à tous comme tâche quotidienne. Ça nous intéresse comme famille parce qu'on a des tâches quotidiennes à faire, voilà. Il s'agit de porter l'Évangile aux personnes avec lesquelles chacun a affaire, tant les plus proches que celles qui sont inconnues. C'est la prédication informelle que l'on peut réaliser dans une conversation. C'est aussi celle que fait un missionnaire quand il visite une maison. Être disciple, c'est avoir la disposition permanente de porter l'amour de Jésus aux autres. Et cela se fait spontanément en tout lieu, dans la rue, sur la place, au travail, en chemin. J'aime bien quand il dit cette prédication informelle. Voilà, moi, là, par exemple, là, aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est de la prédication formelle. Je cause, vous écoutez. Bon, c'est bien, il en faut. Mais dans les familles, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous dites aux enfants, ben, asseyez-vous, maman parle, et vous vous taisez. Ça ne va pas le faire, ça. Si papa parle, peut-être ça va un peu le faire, mais bon, ce n'est pas comme ça. On est dans l'informel, prédication informelle. Vous connaissez peut-être des Fioretti de Saint-François d'Assise. Justement, où il était avec Frère Léon, il a dit, on va évangéliser. Ah bon, Frère Léon, bon, on va évangéliser, d'accord. Ils étaient en habit, franciscains, qu'on connaît bien, et ils font le tour du village, tous les deux à pied. Ils se baladent dans le village, salut comme ça, et ils reviennent au couvent. Le frère Léon dit, pensaient qu'on était parti évangéliser. Et lui, ben, c'est ce qu'on a fait. Et donc, du coup, la prédication informelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est, on ne va pas dire, parce que surtout en France, on ne peut pas dire grand-chose sur Dieu, sinon tout de suite vous êtes taxé d'intégriste ou de machin, ou je ne sais pas quoi. Mais on va simplement, tangentiellement, informellement, manifester. Comme je vous ai dit, je prie pour vous. C'est de la prédication informelle. Et donc, l'amour de Jésus se porte aux autres par des choses, des tâches quotidiennes. Il s'agit de porter l'évangile aux personnes avec lesquelles chacun a affaire, tant les plus proches que celles qui sont inconnues. Un accueil, un sourire, on croit aussi que ça annonce l'évangile. Il y a l'instruction formelle, ça c'est important, du catéchisme. Il y a des prédications formelles, que ce soit dans les célébrations ou dans des journées comme celle-ci, mais il y a les prédications informelles. Dans cette prédication, toujours respectueuse et aimable, le premier moment consiste en un dialogue personnel où l'autre personne s'exprime, partage ses joies, ses espérances, ses préoccupations pour les autres qui lui sont chers et beaucoup de choses qu'elle porte dans son cœur. C'est seulement après cette conversation qu'il est possible de présenter la parole, que ce soit par la lecture d'un passage de l'Écriture ou de manière narrative, mais toujours en rappelant l'annonce fondamentale, l'amour personnel de Dieu qui s'est fait homme, s'est livré pour nous et qui, vivant, offre son salut et son amitié. C'est l'annonce qui se partage dans une attitude humble, de témoignage et de celui qui sait toujours apprendre avec la conscience que le message est si riche et si profond qu'il nous dépasse toujours. Parfois, il s'exprime de manière plus directe. D'autres fois, à travers un témoignage personnel, un récit, un geste ou la forme que l'Esprit-Saint lui-même peut susciter en une circonstance concrète. Si cela semble prudent, et si les conditions se réunissent, il est bon que cette rencontre fraternelle et missionnaire se conclue par une brève prière qui rejoigne les préoccupations que la personne a manifestées. Ainsi, elle percevra mieux qu'elle a été écoutée et comprise, que sa situation a été remise entre les mains de Dieu, et reconnaîtra que la parole de Dieu parle réellement à sa propre existence. Non, c'est bien ça vraiment, parce que il n'y a pas qu'une manière d'évangéliser, il n'y a pas qu'une manière de transmettre l'évangile dans sa famille. Là déjà le Saint-Père en cite plusieurs, de prédications informelles, de témoignages personnels, de récits, gestes, de prières, si ça semble prudent et si les conditions sont réunies. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus gaver les enfants de prière, parce que voilà, tant qu'on les a sous la main, on bourre au maximum. En même temps, on est proposant. C'est là où il faut prier. C'est-à-dire, où mettre le curseur ? Moi, j'en sais rien où mettre le curseur. C'est vous qui savez. Dans vos familles, dans la circonstance particulière de vos familles. Il n'y a que vous qui pouvez savoir avec votre époux, c'est aussi à deux, c'est aussi l'avantage d'être à deux aussi, c'est qu'on en parle. Donc, moi je trouve ça beau de dire justement, de rejoindre, le Saint-Père insiste beaucoup, et ça c'est très jésuite aussi, de rejoindre la circonstance particulière de l'autre. Dans quelle circonstance il est ? Qu'est-ce qu'il vit ? Qu'est-ce qu'elle vit ? On n'est pas là pour imposer un schéma, on n'est pas là... Non, qu'est-ce que tu vis, hein? Reconnaîtra que la parole de Dieu parle réellement à sa propre existence. Peut-être ce que tu vis, je ne suis pas tellement en accord avec ce que tu vis. Peut-être, mais dis-moi ce que tu vis. Et au moins de pouvoir partager. Les difficultés dans les familles, les tensions viennent qu'on ne peut pas partager les points sur lesquels on n'est pas d'accord. Le dernier point, c'est il ne faut pas penser que l'annonce évangélique doit se transmettre toujours par des formules déterminées et figées, ou avec des paroles précises qui expriment un contenu absolument invariable. Elle se transmet sous des formes très diverses qu'il serait impossible de décrire ou de cataloguer, dont le peuple de Dieu, avec ses innombrables gestes et signes, est le sujet collectif. Par conséquent, si l'Évangile s'est incarné dans une culture, il ne se communique pas seulement par l'annonce de personne à personne. Cela doit nous faire penser que dans les pays où le christianisme est minoritaire, en plus d'encourager chaque baptisé à annoncer l'Évangile, les églises particulières doivent développer activement des formes, au moins initiales, d'inculturation. C'est intéressant, bon, ça, il parle comme Saint-Père du monde, mais ramenons ça à la famille. L'inculturation, parfois, est affaire dans la famille. Dans le sens, c'est qu'entre familles, entre frères et sœurs, entre beaux-frères, belles-sœurs, etc., on a des cultures différentes, même si on est tous gaulois ou pour la majorité, mais on a des cultures différentes. Donc, comment est-ce que je fais pour rejoindre l'autre dans sa culture, dans sa manière d'être, dans sa manière de vivre? Qu'est-ce que tu vis? Est-ce que je sens que j'impose, c'est ça, mon schéma invariable, non négociable, ou est-ce que je suis à l'écoute de ce que tu vis? Ce à quoi on doit tendre en définitive, c'est que la prédication de l'Évangile, exprimée par des catégories propres à la culture ou à la personne, où il est annoncé, provoque une nouvelle synthèse avec cette culture. Bien que ces processus soient pas toujours lents, parfois la crainte nous paralyse trop. Si nous laissons les doutes et les peurs étouffer notre toute audace, il est possible qu'au lieu d'être créatifs, nous restions simplement tranquilles, sans provoquer aucune avancée. Et dans ce cas, nous ne serons pas participants en processus historique par notre coopération, mais nous serons simplement spectateurs d'une stagnation stérile de l'Église. Ça mérite d'être clair. Il envoie du lourd, notre pape François. Hein, et là, voilà. On a à proposer, on a à participer à ce processus, on a à coopérer. On n'a pas la réponse de l'autre, mais on peut être du côté de la question. Et plus on vieillit, plus on est du côté de la question. Et plus les enfants se grandissent, plus ils sont du côté de la réponse. Forcément, ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, si les parents décident tout à la place des enfants, ce n'est pas des adultes, c'est des immatures. Et l'éducation, c'est justement progressivement faire naître à partir de questions la réponse, en montrant l'exemple, en proposant, en donnant des lieux où l'enfant pourra voir ce qui se passe ailleurs, mais progressivement il fera son tri, il fera sa sauce pour donner sa propre vision de foi, dans la foi de l'Église, bien sûr, mais sa propre manière d'incarner. Il n'y a pas qu'une seule manière d'être catholique. Il n'y a pas qu'une seule manière d'être chrétien, déjà, il y a quatre évangiles. Assez différents les uns des autres, pour commencer. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire cet après-midi.